simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que j'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Je vais commencer cette émission par vous lire un communiqué au sujet de S, camarade au pronostic vital engagé à la suite de la manifestation de Sainte-Soline. Le samedi 26 mars à Sainte-Soline, notre camarade S a été atteint à la tête par une grenade explosive lors de la manifestation contre les bassines. Malgré son état d'urgence absolu, la préfecture a sciemment empêché les secours d'intervenir dans un premier temps, et d'engager son transport dans une unité de soins adaptée dans un second temps. Il est actuellement en réanimation neurochirurgicale. Son pronostic vital est toujours engagé. Le déferlement de violence que les manifestants ont subi a fait des centaines de blessés, avec plusieurs atteintes gravement à l'intégrité physique, comme l'annoncent les différents bilans disponibles. Les 30 000 manifestants étaient venus dans l'objectif de bloquer le chantier de la méga-bassine de Sainte-Soline, un projet d'accaparement de l'eau par une minorité au profit d'un modèle capitaliste qui n'a plus rien à défendre, sinon la mort. La violence du bras armé de l'État démocratique en est la traduction la plus saillante. Dans la séquence ouverte par le mouvement contre la réforme des retraites, la police mutile et tente d'assassiner pour empêcher le soulèvement pour défendre la bourgeoisie et son monde. Rien n'entamera notre détermination à mettre fin à leur règne. Mardi 28 mars, c'est-à-dire demain, et les jours suivants, renforçons les grèves et les blocages, prenons les rues pour S et tous les blessés et les enfermer de nos mouvements. Vive la révolution, des camarades de S.
Ouais, alors ça va être dans ce climat un peu lourd qu'on va faire cette émission, puisque on a depuis deux jours eu cette information. Il y a actuellement deux personnes, il y a un deuxième manifestant qui a été mis dans un coma artificiel avec des lésions cérébrale importante et une intervention qui va être faite. On sait qu'il y a également une troisième personne qui a eu des blessures très importantes au visage, à la face. Et malheureusement, on ne peut que patienter et attendre. Alors, on va quand même parler de ce pourquoi S vivait et de ce pourquoi nous aussi on vit, c'est-à-dire la lutte. Et pour ça, on va avoir deux moments. On a pour la seconde partie de l'émission deux personnes qui sont venues nous raconter un petit peu comment ça se passait chez les étudiants à Reims. Parce que oui, il se passe des trucs chez les étudiants à Reims, c'est incroyable, mais ça existe quand même. Et on commence tout d'abord l'émission, puisqu'on l'avait promis depuis quelques semaines, avec des informations sur la ville de Rennes. Et pour ça, on a notre camarade Lupec. Des guermates, camarade. Allô,
tu m'entends? Ah bah merci, je, je, je veux bien faire l'émission en breton, si
non,
vous voulez.
Non, ça ne va pas être possible.
Ça va pas être possible. Bon, dommage.
Dommage, exactement. Ben d'abord, merci de nous accorder un peu de ton précieux temps, parce que tu cours partout aussi. Alors, tu nous appelles de Rennes, parce qu'il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans cette ville. D'abord, peut-être on peut vite fait la décrire, hein, faire un peu de sociologie pour les nuls. Rennes, combien d'habitants? Ville étudiante, des industries, etc., etc. Type de population, hop, hop, hop.
Ok, du coup, ouais, deux choses avant de répondre à la question. Si en régie, ils arrivent un peu à monter le son de ton micro, ça sera bien. Pour que j'entende mieux, mais je crois que j'ai compris la question, on verra. Et puis deux choses, une grosse pensée pour les militants mutilés, notamment celui qui est entre la vie et la mort. Ouais. Voilà, et puis bon, je crois que ça va continuer, mais en tout cas, voilà, c'est une grosse pensée pour ces personnes-là et leurs familles. Rennes, c'est 250 000, c'est une ville qui grossit beaucoup, 250 000, 300 000 habitants. Pas de tradition ouvrière, plutôt une tradition étudiante et puis ville de fonctionnaires et de gardisons. Et puis là, beaucoup de gens qui viennent bosser dans les technologies, d'ailleurs notamment dans la sécurité militaire, quoi. La e-sécurité militaire, quoi, par internet et compagnie, quoi.
D'accord, donc potentiellement, à part les étudiants, il n'y a pas de secteur particulier qui peut se mobiliser. Il y a quand même PSA, non, qui est assez loin.
Alors ouais, PSA, il n'y a pas de secteur particulier. Il y a quand même les enseignants qui sont quand même, j'ai l'impression, dans la lutte là, voilà. Mais donc du coup, tout ce qui est un peu fonctionnaire d'État, mais pas des secteurs effectivement vitaux. Il y a une gare avec des gens qui se mobilisent comme ailleurs, quoi, des salariés qui se mobilisent. Ouais, PSA, c'est d'ailleurs parmi tous les centres de Citroën, il n'y a pas une grosse tradition, c'était des ouvriers paysans historiquement.
Plutôt obéissants. Ouais.
D'ailleurs, on dit qu'on a mis l'usine PSA à cet endroit-là parce que c'était des lieux où il n'y a pas de trop de contestation, y compris paysanne.
C'est vrai.
Il y a d'autres endroits en Bretagne où il y a plus. Et là, il n'y a pas énormément. Il y avait, c'était plutôt un espèce de centre droit. Voilà, et ça s'est vérifié. Ça n'a jamais été un gros lieu de lutte, même si là, il y a des endroits où ils viennent en grève et tout, hein, mais c'est pas une dynamique. Bon, et puis après, avec aussi tout ce qu'il y a eu comme réforme dans l'industrie, où l'usine emploie beaucoup moins qu'avant aussi.
Ouais, alors tu l'as dit, beaucoup de jeunes, une jeunesse aussi qui est remuante avec une grosse vie, on va dire, en dehors de la fac, mais aussi à la fac. Pour les plus vieux comme moi, qui se rappellent des bastons de la rue de la Soif et aussi également des nombreux squats où il y avait une vie alternative assez importante comme celui de l'Excluserie et autres, et de la fac évidemment qui était très agitée. Donc il y a toujours eu cette tradition-là, on va dire en tous les cas, de la jeunesse étudiante ou pas, hein, d'ailleurs, mais qui se bouge, qui mobilise et qui a une espèce de fond culturel, quoi.
Ouais, bah du coup, il y a vraiment un truc un peu... Moi, du coup, pour présenter, moi, je travaille à Rennes 2, et donc on a monté un comité de mobilisation du personnel. Donc du coup, je suis au contact avec les étudiants, sans participer aux AG, ni y prendre part. Mais en tout cas, je vois ça d'un peu plus près que d'autres fois dans ma vie militante. Il y a vraiment quelque chose d'assez identifié de Rennes 2 la Rouge. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a même un tag au Mirail, le Mirail est bloqué, Rennes de la Rouge aussi. Donc il y a vraiment un truc, bon bah voilà, on l'a vu hein, dans le mouvement, c'est là que ça a commencé, c'est un peu à nous de commencer, bon voilà, genre un peu compétition de fac, quoi, on est champion de France de blocage.
Ouais, mais il y a les mémoires qui vont bouger.
Avec après des étudiants qui se mobilisent. Et puis ces dernières années, moi de mon regard, je n'aurais pas de preuves à apporter, mais Notre-Dame-des-Landes a contribué aussi à politiser largement, quand même, le coin, à faire en sorte que, du coup, bah ouais, il y a plein de jeunes qui s'investissent dans cette lutte et qui ont eu ces investissements, quoi. Donc il y a ce côté-là, et puis après, il y a le côté en Bretagne aussi, les études, c'est important. En termes de bac, on est une des régions avec les meilleurs résultats, donc c'est bon. Il y a quelque chose aussi d'investissement dans les études qui est assez important. de manière générale ouais. en Bretagne aussi. Quoi.
Et puis il y avait eu également des liens entre les différents secteurs qui avaient été importants, je pense au mouvement qu'il y avait eu ces dernières années avec la tentative et la construction d'espaces comme ceux de la Maison de la Grève, ou en tous les cas les liens qu'il y avait pu avoir entre certains secteurs mobilisés, certaines personnes mobilisées, et des gros secteurs comme la Star, comme les transports en commun, etc., etc.
Ouais, après en plus bah ici sur Rennes, il y a quand même aussi le mouvement du CPE, j'ai l'impression on reste l'héritier de ça. Moi je suis arrivé vers 2010 à Rennes, donc j'ai pas été au mouvement du CPE, mais avec des personnes bah on le sait hein, qui certes sont plus étudiants, sont peut-être plus dans les orgas, mais restent mobilisés, même si bon après il y a eu des itinéraires variés. Donc il y a eu ça, et il y a eu et ça a donné aussi le mouvement de 2016 à Rennes qui était assez exceptionnel. Avec différentes composantes, mais des composantes qui se parlent. Là où, je sais pas, des fois, ça peut être un peu plus difficile, il y a moins de communication. Et en fait, un lien, alors plus ou moins en 2016, j'ai l'impression qu'il était plus fort, mais c'était peut-être une impression, mais entre des éléments plus radicaux, des éléments plus de syndicats étudiants un peu plus modérés, et puis en fait, Sud, qui joue la bascule en fait, qui est en discussion à la fois avec la base, on va dire non syndicale du mouvement, mais aussi avec la base syndicale quoi. Donc ça permettait des solidarités. Puis là, ce qu'on voit, il y avait ouais plus rapidement, même là sur les blocages, il y a tout ce qui est cantine, tout ce qu'on peut connaître, mais peut-être plus ou moins suivant les endroits, peut-être moins à Reims. Karen sans doute, mais rapidement ils arrivent, je sais pas, ils sont en lien avec les biocop, hop, ils apportent du fromage, du bidule, bon, ouais. Ça ravitaille tout le monde. Donc des beaucoup de liens en fait quand même entre les différents groupes politiques, même si après peut-être qu'on pourra le voir, ça veut pas dire que tout le monde travaille ensemble, mais ça se connaît, ça se parle quoi.
Concrètement, ça donne quoi alors en termes de mobilisation, en termes de nombre et en termes de sociologie et de ce que ça donne en termes de capacité de mobilisation, en termes de nombre
ouais,
et en type de mobilisation.
Nous, on est dans le mouvement depuis le 19 janvier. J'aurais bien écouté la suite, mais je pourrais le faire sans doute sur Internet, de savoir ce qui se passe à Reims et les personnes qui seront
venues dans
le studio.
Ça va être rapide.
Comment ?
Ça va être assez rapide, hein.
Non, c'est pas
mais
sûr.
Sur ce qui se passe à Reims, mais tu pourras écouter, bien sûr.
D'accord. Mais nous, ouais, vraiment depuis le 19 janvier, comme ailleurs, donc beaucoup de gens en manif, ça Reims aussi quand même par rapport à d'habitude. Et d'ailleurs, Rennes n'est pas en termes de mobilisation, pour le coup, on n'est pas dans les championnats de France en proportion de la population, on n'atteint pas des records et ça n'a pas augmenté non plus énormément là. Voilà. Donc du coup, et puis après, peu de gens en AG, nous on l'a constaté sur le comité de mobilisation de Rennes 2, peu de moments dans les AG étudiants, c'était pas foufou, dans les AG de l'éduc, de manière générale, quoi. Donc bon, voilà, c'est
alors, attends,
qu'on a pu constater ailleurs.
Je t'interromps pour regarder les camarades étudiantes qui sont là, je suppose que c'est la même chose, assez peu de monde en AG. Ouais, qui veut répondre ? Allez-y, hein, soyez pas timide. Vous voyez peu de monde en nager aussi ?
Très peu de monde en nager.
Ouais, c'est bon, tu vois, c'est pareil partout. Ouais.
Ouais. Même si là, ça s'est un peu ouvert. Après, il y a aussi des bonnes raisons, hein, je pense à rien, mais on l'a vu aussi, nous, dans les secteurs professionnels, où on a halluciné des millions de gens en France dans la rue, et puis tu fais nager. Bon, voilà, pour plein de raisons qu'on pourrait analyser, mais c'est pas. Mais les forces en présence, effectivement, les étudiants, hein, pas que. Il y a aussi nous on est beaucoup à un truc, c'est Sud, FO, CGT, avec des blocages de pas raffinerie parce qu'il n'y a pas, mais de dépôts pétroliers, puis des ordures ménagères, quoi. Un petit peu ce qu'on a fait nous sur le. C'est vrai que du coup on a essayé de se mobiliser, on s'est mobilisé carrément sur le comité de mobilisation à Rennes 2 des enseignants. Bon depuis le 19 janvier, mais on a eu différentes étapes. Et là le 49-3 a contribué encore à ramener du monde, quoi. Donc à chaque fois il y a toujours un peu plus de monde. Et a priori, là aussi, on entend ça ailleurs, plus de lycéens dans les mouvements là sur la dernière manif de lycéens et de jeunes. Voilà. Après, sur la fac, moi ce dont j'ai l'impression, c'est que Et de manière générale, à Rennes, c'est qu'il n'y a pas d'espace intermédiaire. Alors bon, je ne sais pas si ça va être bien pris avec Grégor, hein, mais quoi, l'émission. Mais en fait, il n'y a quasiment pas de social-démocratie, quoi. C'est soit on est radicaux chez les jeunes, soit il n'y a pas de place dans le mouvement pour, je sais pas, aller dessiner des fleurs sur les parterres dans la fac, aller distribuer des tracts, des petits trucs comme ça. Non, on se retrouve à 150 à minuit, j'ai vu ça. À 150 à minuit, on part de Rennes 2 pour aller faire un blocage avec des ouvriers, bon, qui sont pas là, mais ça c'est autre chose. Et puis on crame tout sur un grand axe qui rentre dans Rennes, quoi. Voilà.
Est-ce un problème ?
Comment ?
En quoi est-ce un problème ?
Non, c'est, je sais pas. C'est plutôt qu'il y a pas. Je sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, il n'y a pas d'espace pour des personnes qui sont. Il y a peu d'espace. Il n'y a pas d'espace, mais il y a peu d'espace pour des personnes qui seraient un peu moins habituées à des formes radicales. C'est-à-dire que quand on voit comment ça tape dans les mouvements. Et ça aussi, c'est autre chose. Hein, beaucoup de manifs de nuit, beaucoup. Bon, voilà. Il y en a qui ont peur d'aller en manif.
Ben ça, c'est sûr. Ouais. Tu veux dire que ça empêche potentiellement un élargissement
une
massification.
J'ai ce sentiment, mais quoi, après, c'est un constat aussi. Hein, tu vois, la fac, par exemple, n'est plus bloquée, d'ailleurs. On n'est plus bloqué depuis au moins 2-3 semaines. Et il n'y a pas d'occupation non plus, quoi. C'est-à-dire que finalement, il y a juste une négociation quoi, qui est claire, où il y a un rapport de force des étudiants qui dit à la présidence, bah là en fait vous annulez les cours, là vous annulez les cours parce qu'on a une AG, là vous annulez les cours parce que y a une manif, et la présidence se soumet parce que sinon ils savent que ça va être le bazar, mais voilà. Mais du coup, il n'y a pas non plus une espèce de truc un peu vivant, c'est beaucoup dans l'action. Alors du coup, bah ouais, ça a permis de faire des trucs incroyables. Notamment, on va reprendre ça demain, mais deux opérations ville morte. J'avais jamais vu ça ici, en 10 ans, et puis voilà, de mémoire de militants, de vieux militants comme on dit, des personnes qui sont allées sur la rocade, quoi, le périphérique. Et des blocages en plusieurs points, quoi, avec des centaines de personnes à différents ronds-points, quoi. Enfin, au moins 4-5 ronds-points, quoi. Donc vraiment, et du nombre, ce qui fait que, bah, bien évidemment, là, jeudi dernier, la police a essayé de nous virer à 10, mais on était une centaine, bah,
forcément,
ouais. Bah, c'était difficile pour eux, quoi. Quoi, ils l'ont pas fait, d'ailleurs. On a pu continuer notre action.
Je signale à nos invités que s'ils ont des questions à poser à Gilda sur la fac de Rennes pour éventuellement comparer ou donner d'autres exemples, n'hésitez pas, hein, il est là pour ça. Donc tu disais qu'il y avait une complicité objective de la présidence de l'université, ça fait rêver pour ceux qui ont connu les présidences de l'URCA. C'est dû à quoi ? Au rapport de force, à une empathie politique, à une certaine peur ? Et puis sur la remarque que tu faisais par rapport au blocage, moi je pense qu'il faut arrêter de fétichiser le blocage comme un moment hyper important de la force. D'abord, ça consomme une énergie incroyable. Les campus, en plus, ils sont ouverts, donc parfois c'est vraiment complètement impossible physiquement, matériellement de bloquer. Et en plus, on a l'impression que c'est une fin en soi, le blocage, voire l'occupation d'un amphi, ce qui peut être très sympathique en termes de moments passés ensemble et de rencontres, mais en termes de participer à un mouvement large de lutte, c'est des choses qui sont interrogeables, quoi, en tous les cas. Mais bon, alors je reviens sur ma question.
Okay. Qui pose les questions dans cette émission ?
C'est moi. la complicité, t'as raison. La complicité de la présidence, elle est due à quoi, à ton avis ?
Non, ouais, la complicité. Bon, alors à Rennes 2, ce que j'ai découvert, c'est que tout le monde est de gauche, hein, côté personnel, notamment personnel enseignant.
Chic.
Bon, voilà, donc. Et donc, en fait, c'est une espèce de cogestion comme ça au début, donc quand c'était juste des dispenses d'assiduité pour aller se rendre à la manif. Donc la manif ont lieu à 11h, donc entre 10h et 14h, il n'y avait pas de cours. Ce qui fait que les collègues de gauche s'organisaient pour avancer le TD d'avant, machin, enlever une demi-heure là, et puis tout le monde allait à la manif, et puis après on rentrait, quoi. Enfin, c'est-à-dire le non-mouvement en tant que tel. Voilà, donc du coup, finalement, il y a un espèce de truc où la présidence joue bien aussi. C'est-à-dire que en ne jouant pas la carte de la conflictualité, il contribue un peu à encadrer un peu le mouvement. Bon, là, bien évidemment, on est passé un peu une étape au-dessus. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'ils ont les étudiants pour bloquer. À bon entendeur, salut. Ils sont rentrés dans les bâtiments. Ils ont sorti 800 chaises et tables. Voilà. Qu'ils ont mis devant. Ouais, donc, du coup,
pour faire court,
les,
c'est vrai,
les chaises et les tables, c'est pas facile de faire court. Donc, du coup, ça a été un peu compliqué à gérer parce qu'après, l'université se disait, bah, on les range pas, mais si on les range pour qu'ils les ressortent, voilà. Donc, il y a quand même eu un peu des espaces de négociation avec les étudiants pour voir où ils en étaient. Ça s'est un peu fait après. Donc, finalement, la présidence, bah, elle voit bien qu'effectivement, il y a du monde qui est prêt à mettre le bazar si jamais, les demandes sont pas acceptées, quoi. Donc oui, je pense que c'est un rapport de force, plus que, alors effectivement, la présidence est de gauche, ils viennent en manifestation, après, de toute façon, ils sont tous de gauche, en termes d'engagement, il n'y a rien, ils gèrent un budget, quoi, voilà, quoi. Donc je pense que, je dirais que c'est plus un espèce de rapport de force, même si on essaye de jouer sur leur conscience, mais là, par exemple, on a un problème avec les femmes de ménage qui n'ont pas été payées pendant les jours de blocage, quoi, qui ont été mis en jours de congé forcé. Bon, le président, ça n'a pas l'air de s'en émouvoir. Il dit ça concerne le prestataire, ça concerne pas, ça nous concerne pas, c'est pas notre affaire et on n'a pas reçu les femmes de ménage, quoi.
Est-ce que tu peux nous parler justement sur Rennes? Il y a, je crois, une recherche de lieu. Il y a eu un truc récent qui est une occupation, je crois, d'un lieu qui était vide.
Alors, du coup, effectivement. Il y avait eu ce mouvement assez incroyable en 2016. En fait, depuis des années, ils interdisent les manifestations dans le centre-ville. Et en 2016, on avait réussi... j'ai pas trop envie de me mettre en avant, moi, parce que... Mais bon, en tout cas, mouvement avait réussi à occuper une salle qui est en fait une ancienne bourse du travail, salle de la Cité, et qui avait été un moment chouette où les syndicats, en fait, avaient défendu l'occupation. Sud s'était d'ailleurs porté garant, ils ont dû payer une facture qui s'élevait à quelques milliers d'euros. Mais aussi FO avec des AG où justement là il y avait eu cette rencontre en fait entre syndicats et mouvements plus radicaux, ce qui est, comme on le sait, pas toujours le cas. Donc là, ils ont voulu renouveler l'expérience dans un ancien cinéma désaffecté. Ils ont préparé le truc. Mais sauf que en fait, dès que des personnes sont rentrées dans le cinéma, en fait, il y a eu une charge policière. Sauf que ils n'avaient pas dû bien évaluer combien ils étaient, les policiers, et en fait, il y a eu des barricades au milieu, mais en plein centre-ville. Mais moi, je suis arrivé un peu après la bataille, même si après la bataille est revenue. Mais en fait, il y avait des barricades, plusieurs barricades, et les gens construisaient des barricades quand j'arrivais dans le centre-ville, et il n'y avait pas de policiers. Les policiers, on ne les voyait pas. J'y suis resté bien 2 heures sans voir un seul policier. Bon, donc du coup, le lieu était occupé, c'était assez chouette, avec des centaines de personnes, sauf que, en même temps, il y a certaines personnes qui avaient sans doute besoin de nouveaux habits, qu'on pensait, piller un magasin, etc. Donc, au bout d'un moment, l'occupation d'un lieu, c'est une chose, on commençait à faire des pillages sans présence policière, comme ça, pendant... la police est intervenue, a dégagé tout le monde. Ils ont sommé les personnes dans le lieu de partir, ce qu'elles n'ont pas fait. Et en fait, ils n'ont pas pu être expulsés pendant la nuit, mais ça a duré une journée, un dimanche, et le lundi matin, elles ont été expulsées. Voilà, avec, de toute façon, c'était des conflits avec la mairie socialiste, PS, on va dire, je préfère. Qui refuse de prêter un lieu. Donc il y a toujours un peu cette idée-là, et puis là c'est pareil, c'était assez incroyable, parce qu'ils sont rentrés dans le lieu, donc en termes de capacité d'organisation, ils sont rentrés dans le lieu, il y avait au bout de 5 minutes, il y avait l'électricité, il y avait un ancien cinéma, il y avait le nom du cinéma qui brillait en plein milieu dans la nuit.
C'était très classe.
Repas... film,
Après, je te disais,
présenter un film le dimanche soir.
Il y a des savoir-faire qui restent toujours dans la culture rennaise. Alors malheureusement, on n'aura pas le temps de, parce qu'on va profiter quand même de nos invités, à moins qu'il y ait des questions à te poser éventuellement, peut-être plus intéressantes que les miennes. On aura peut-être l'occasion de revenir avec toi sur la mobilisation en Bretagne en général, parce que Il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans plein de villes de Bretagne, que ce soit en termes de mouvement ou de mobilisation, de blocage, etc., etc. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler avec toi très bientôt.
Certainement. Eh ben, moi aussi. Ouais. Attends,
Avant que tu partes, ouais. J'ai une question. demain, c'est la 11e, je crois, journée nationale contre la réforme des retraites. Et qu'est-ce que tu vois comme évolution, toi ? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans les prochains jours ?
Bah, ouais, c'est difficile. Moi, j'avais pas. Quoi. Parce que le seul truc que je me disais depuis le début du mouvement, c'est que je me demandais quelle forme allait prendre ce mouvement. C'est quand même, on ne sait jamais comme ça. Donc la première partie, ça a été beaucoup beaucoup de monde dans la rue, mais personne dans des AG. Et moi, le 49-3, je ne m'attendais pas à ça, en fait, à ce que, suite au 49-3, il y ait une mobilisation forte. Hein, c'était vraiment impressionnant dans les rues de Rennes. Et puis la détermination. Un peu une colère et une détermination, une manifestation assez incroyable là aussi, de milliers de gens comme ça, spontanément, dans les rues. Là, ce qu'on observe, nous, ce que je disais, plus de jeunes et puis plus de radicalisation hein, aussi, quoi, radicalisation. Je sais pas comment, en tout cas, la volonté de détruire les symboles du capitalisme. Hein. Après, avec des tactiques, alors aussi, ça c'est nouveau, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que c'est partagé ailleurs, mais des tactiques de type un peu à la hongkongaise, be water, c'est on évite la police, quoi. Ouais. D'ailleurs, on a vu les dégâts que ça fait à Sainte-Soline quand on n'évite pas la police.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est très mouvant, quoi. Ça demande d'avoir un peu de... Ouais, une certaine forme, c'est-à-dire que ça marche, en fait, tout le temps, et dès que la police arrive pour bloquer une rue, en fait, ça part dans une autre rue, ça bouge tout le temps, quoi. Parce que aujourd'hui, on l'a vu, on a eu des marins pêcheurs qui sont venus manifester. Eux, ils ont pensé qu'ils pouvaient aller au carton avec la police. Se confronter physiquement avec la police, ils ont rapidement perdu, ils se sont fait nasser, quoi. Il n'y a pas de rapport de force possible. Momentanément, sans doute, ou pour on a pu résister, par exemple, quand il s'agissait du lieu, parce que il y a un rapport de force de nombre, mais. Voilà. Donc là, j'ai l'impression. Alors, j'ai jamais cru cette histoire des jeunes là sur le mouvement des retraites. Mais c'est clair que la question du 49-3, en fait, c'est plus qu'une question de retraite. C'est une question de démocratie là où ils n'arrêtent pas de nous répéter. Mais pourtant, c'est démocratique, quoi. Personne n'y croit. Donc je peux difficilement répondre à la question, mais c'est sûr qu'il y a ces deux éléments-là, ou ces trois, quoi. On l'a vu, hein, du coup, un énervement des personnes, en fait. Hein, c'est pas qu'une radicalisation, hein, mais vraiment, les personnes sont énervées parce que, de toute façon, on leur offre aucune voie de sortie alors qu'ils sont majoritaires. Des jeunes un peu plus nombreux. Et sont peut-être aussi un sujet qui s'est élargi, qui va bien au-delà de la question des retraites, quoi.
Ok, mais je crois que c'est un peu partout pareil, effectivement. Mais tu l'as bien synthétisé. On va s'écouter vraiment 2 minutes, évidemment, des Ramoneurs de Minerve. Je ne pouvais pas le mettre. C'était obligatoire. Et puis après, on va enfin donner la parole à nos invités qui ont été très patients. À bientôt, Gilda Kenavo.
Kenavo.
La.
Allez, on avait dit 2 minutes, ouais, c'est parfait, ça colle. Bon, donc, on est très nombreux dans le studio ce soir, c'est très bien, ça nous change. On a 4 personnes, et pour une fois, les filles sont majoritaires, c'est très bien également. Ben voilà, on va vous laisser la parole. Donc, on est avec des étudiantes et un étudiant de Reims qui vont nous parler de la mobilisation, de comment ça marche. D'où parlez-vous, chers camarades ? D'où venez-vous ? Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous êtes mobilisés ? Qui représentez-vous ? Et dans quelle fac vous êtes, si vous en avez envie d'en parler ? Vas-y. Ah, c'est toi qui vas être obligé de commencer, ouais.
Alors, donc, je suis étudiante à Reims.
Ouais.
J'étudie les sciences sociales et les sciences politiques à Reims.
D'accord.
Et du coup, aujourd'hui, je vais principalement parler de l'AER, du syndicat qui est majoritaire à Reims, assez axé à
toi, t'es syndiqué, ouais.
Ouais.
Ok. À l'AER.
Ouais.
Okay. Vous êtes tous syndiqués à l'AER ?
Ouais, moi pareil.
Ouais, tu me disais, ouais, tu agis avec l'AER. D'accord, toi aussi également, t'es syndiquée.
Ouais, je suis aussi étudiante à Reims, à Sciences Po.
Sur quelle fac hein?
À Sciences Po, est-ce que vous m'entendez?
Je
Suis étudiante à Sciences Po, comme certains de mes camarades ici. je suis aussi syndiquée à l'AER, du coup.
D'accord.
Et du coup, l'AER, juste pour information, c'est l'alternative étudiante rémoise.
On peut dire, si je me trompe, tu m'arrêtes, c'est ce qui aurait succédé, ou en tous les cas, c'est ce qui serait le contre-semblant pour ceux qui connaîtraient un peu de l'UNEF.
Alors, vite fait. Ça succède, enfin, c'est plus une scission pour le coup. Donc à la base, c'était une branche un peu à part, et il y a eu une rupture, et donc c'est une scission complètement à part aujourd'hui de l'UNEF. Okay.
Ouais, un de ces quatre, faudra faire une émission un jour là-dessus parce qu'il s'est passé de nombreuses choses dans le syndicalisme étudiant qui a beaucoup bougé. En gros, tu pourrais dire que ça représente combien de personnes, l'AER, vite fait ? T'as pas de chiffres ? C'est compliqué.
L'AER à Reims ?
Ouais.
Ouais, on est 200 adhérents, non ?
Ouais, d'accord.
Ouais. Pas loin.
D'accord. Bon, de toute façon, pour le moment, mettez bien votre micro quand vous parlez. C'est, on va dire, le seul groupe organisé qui se bouge et qu'on a vu dans la rue sur la mobilisation des retraites.
À gauche.
Ouais.
Je confirme que c'est le seul groupe qu'on a vu se mobiliser contre la réforme des retraites.
D'accord.
Il y a d'autres groupes étudiants dans le syndicalisme étudiant à Reims qu'on peut citer, mais je confirme que c'est l'AER et uniquement l'AER, du moins dans le syndicalisme étudiant, parce qu'il y a évidemment beaucoup de forces étudiantes qui se sont rejointes, qui se mobilisent contre la réforme des retraites et de manière générale qui se mobilisent à Reims et qui fait des choses pour les étudiants.
D'ailleurs, comment ça se manifeste la mobilisation à Reims ? Comment pourriez-vous me la décrire ? Vas-y.
Juste pour revenir sur le syndicat et donc la mobilisation à l'échelle syndicale un peu, donc ça se fait un peu à deux échelles, déjà au niveau de l'étudiant ou de l'étudiante en lui-même. Le point principal un peu d'un syndicat, c'est que c'est vraiment le fait d'accompagner au quotidien les étudiants. Et du coup, c'est ça qui est important. Et à l'échelle beaucoup plus nationale ou alors locale, enfin, une échelle au-dessus, quoi, c'est vraiment de représenter au niveau des conseils, donc que ce soit de l'administration ou par exemple à Sciences Po, c'est les conseils de l'Institut de Sciences Po. Ça permet un peu d'avoir une voix qui représente les étudiants, quoi.
Et oui, parce que depuis la loi Faure de 69, normalement, il y a une co-gestion des entités administratives que sont les universités en France, ce qui font des entités autonomes, où les étudiants sont représentés et participent normalement aux décisions et à la gestion des établissements universitaires. Sciences Po étant un établissement universitaire, normalement, il doit également avoir une représentation. Donc je reviens sur la mobilisation. Comment ça s'est passé ? Comment vous avez galéré déjà pour mobiliser les étudiants ? Et puis, est-ce que vous avez noté depuis quelques jours, voire quelques semaines, modification, en tous les cas, une amplification, comme semblait le dire le camarade qui intervenait de Rennes ?
Bah, c'est vrai qu'à Reims, en tout cas, à l'URCA, le seul syndicat présent sur la fac, c'était l'UNI avant l'alternative. Ils ont d'ailleurs eu un local. Ils ont repris le local des précédents. Je ne sais pas de qui c'était, de l'UNEF. Du coup, il y avait pas. En fait, il y avait bien sûr une mobilisation, mais on s'était pas tous unis. En fait, on s'était pas tous rassemblés. Et là, à partir de cette année, on a pu créer une force commune autour de l'AER et bien sûr d'autres mouvements à l'URCA et d'autres mouvements jeunes. Enfin, les jeunes communistes, le NPA. Mais niveau syndicat, pour l'instant, il y a vraiment que l'AER. Sur Reims, mais donc c'est vrai que au début de la réforme, au début du mouvement de contestation contre la réforme des retraites, on était combien environ en manif dans le cortège à Reims, sachant que en tout on était 10 000 personnes à Reims et en proportion de jeunes, ça faisait quoi à peu près
Je dirais une petite centaine, quoi.
Ouais, ouais, vraiment une petite centaine.
On n'était pas beaucoup.
Petite centaine au début, ouais.
Selon les chiffres des syndicats. Une centaine.
Ouais, non, on était
pas beaucoup.
Non, c'est sûr, on était 100. Et après, au fur et à mesure, on a commencé à faire plus d'événements. On a fait des barbecues. On a fait aussi une manifestation contre l'arrivée du ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. On était vraiment pas beaucoup, mais je pense que ça a commencé à créer un mouvement dans la fac. Les gens ont commencé à comprendre qu'on était là. Et on a pu recruter certaines personnes nous ont rejoint et petit à petit voilà, les cortèges se sont agrandis
Est-ce que vous avez des hypothèses justement sur l'absence ou les hypothèses, hein, les raisons de la non-mobilisation des étudiants au début en général et en particulier sur Reims?
Moi, du coup, je vais parler pour l'URCA. Donc, je suis étudiante à l'URCA au campus de Croix-Rouge, donc le campus de lettres. Et les gens étaient juste, enfin, sont juste pas du tout politisés là-bas. Genre, on essaye de faire du tractage en permanence et tout pour. Au début, justement, c'était pas mal avec l'alternative quand il y avait vraiment rien du tout. Donc, ça a été une grande aide à ce niveau-là. Et les gens se sentaient pas concernés par la réforme. Ils ont perdu pour la plupart totalement espoir en la démocratie du pays. Pour eux, enfin, c'est mort. Ils auront leur retraite à 70 ans, quoi. Et puis c'est comme ça. Et aussi le fait que l'extrême droite soit très présente à Reims. Mmh.
Est-ce que tu crois aussi que le fait que la situation elle soit tellement dure, notamment chez les étudiants, que la précarité elle soit tellement forte, qu'il y a une vraie pression pour faire ses examens et réussir et se barrer vite fait, quoi.
Aussi,
du coup, la fac, c'est plus du tout un lieu où tu vis comme ça pouvait l'être il y a quelques années.
Clairement. Déjà, rien que le fait que les gens puissent pas manifester parce que y a le truc des 3 TD loupés égale plus de bourse, c'est pas fou. Et en plus, on a demandé la justification automatique des absences. On force avec tous les UFR là, depuis des semaines pour obtenir ça. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, les élèves ne peuvent juste pas manifester et pas faire leur droit de grève correctement.
Si je peux ajouter, je pense que vraiment, c'est de manière générale. Surtout, alors moi, du coup, j'étudie à Sciences Po et je vois que... du coup, je peux comparer un petit peu quand je vais à l'URCA, quand je regarde ce qui se passe sur le campus de Croix-Rouge, de Moulins-de-la-Housse. Il y a vraiment une ambiance qui est totalement différente. C'est très difficile, je pense, d'un point de vue personnel, je ne veux pas présumer pour les autres, mais se mobiliser, de se dire je vais m'investir dans des associations, dans un syndicat étudiant, alors que l'université est vraiment en manque de moyens, c'est assez manifeste, ça se voit clairement. Tu n'as pas forcément envie d'y rester, et c'est pour ça, il y a plein de raisons, je pense, hein, mais de manière générale, c'est assez compliqué. Quand tu vis dans un Crous aussi, qui, pareil, a moins de moyens. Faut vraiment avoir envie de se dire je vais m'investir dans des associations, dans le syndicalisme étudiant pour faire bouger les choses. Là où à Sciences Po, on a une situation un peu plus confortable de se dire on va pouvoir tenter de faire des trucs, même si évidemment on a du travail quand même.
On peut imaginer que même déjà si tu vas dans un institut de sciences politiques, t'as un tropisme particulier pour ces questions-là. Et alors, est-ce qu'il y a eu une modification depuis quelques semaines dans la mobilisation? Est-ce que vous avez senti les gens plus intéressés et qui se sont dit on y va? Et qu'il y a eu un peu plus de notamment à Croix-Rouge, à l'URCA, toi?
Du coup, pour Croix-Rouge, clairement, je trouve. Parce que déjà maintenant, quand on tracte... Il y a beaucoup plus de gens qui nous tapent la discute, tout ça. On devient pote avec des gens. Des fois, ils nous emmènent même pour qu'on fasse les interviews dans leurs cours. Enfin, même les profs sont de plus en plus mobilisés. Il y en a qui étaient un peu modérés au début et qui maintenant nous disent qu'ils vont faire grève avec nous, tout ça. On les retrouve en manif. on s'allie aussi pas mal avec, enfin on parle pas mal avec les membres, comment ça s'appelle, les membres de l'administration et du Crous. Enfin l'administration c'est plus compliqué. L'administration, on a pas mal de problèmes avec eux aussi, mais du Crous ils sont très sympas par contre. Et ouais.
Quand ils bossent pas.
Ouais c'est ça. Bah en même temps c'est compliqué pour eux de faire grève tout ça. Enfin. C'est pas la situation la plus facile. Et ouais, du coup, on essaye de mettre un maximum de liens entre tout le monde. Et les étudiants qu'on saoulait de base ont l'air de moins nous détester. C'est déjà ça. On se prend toujours des petites insultes au passage, des fois pendant les tractages ou pendant les actions. Mais dans l'ensemble, c'est de mieux en mieux, clairement.
En tous les cas, nous, ce qu'on a vu dans les manifs, et notamment celle de jeudi, c'est qu'il y a eu une vraie amplification, en tous les cas, une vraie présence massive de jeunes lycéens, mais aussi et surtout étudiants, notamment sur celle de jeudi, où je crois que c'était quasiment celle où on en a vu le plus, quoi. Hein.
Ouais. Ouais,
au moins 200 à 300 personnes, ouais. plus que ça. 400 qui étaient là, quoi.
Un cortège de tête, on était 500.
Vous confirmez cette impression?
Oui, carrément. Et en plus, c'est la manif qui a pris place directement après l'annonce du 49-3. Donc forcément, ça a créé une impulsion sociale et même... Je sais qu'on est tous sortis à ce moment-là, après cette annonce-là, on s'est tous regardés, on s'est dit « Ah bah là, il faut faire quelque chose ». Et je pense que ça a un peu réveillé les consciences aussi. Donc des plus jeunes comme des autres qui ne se sentaient pas forcément politisés à la base. Quoi.
Et même, il y a les manifs de l'intersyndicale, mais il y a aussi des... Depuis l'annonce du 49-3, il y a eu des manifs sauvages annoncées de façon successive. Et en fait, dans ces manifs sauvages, c'était quasiment que des jeunes. On n'était pas nombreux, certes, mais je pense que ça a quand même créé un mouvement. Les gens se sont dit, en fait, on peut radicaliser le mouvement, entre guillemets, à Reims. À la dernière manif, on a dévié de la trajectoire, on est parti en sauvage.
C'est vous. c'est pour dire que c'est pas nous. Donc, voilà.
C'était carrément les jeunes.
C'était carrément les jeunes. Et donc, on est tous partis vers l'autoroute près de la gare. Après, on s'est fait gazer parce que répression policière, voilà. Mais je pense que ça a vraiment créé un mouvement. Et même, pour parler de Sciences Po, je pense que c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à se mobiliser. On a eu notre plus grosse AG. Bon, après, c'était peut-être en raison des attaques des fascistes. Mais on a eu notre plus grosse AG le lendemain de l'attaque. On était 200, en fait. Et 200 à Sciences Po, sachant que la moitié des personnes se mobilisent. Les gens ne se mobilisent pas souvent, d'une part parce qu'il y a beaucoup d'internationaux sur le campus et du coup qui se sentent peut-être un peu moins concernés par ce qui se passe en France. Et puis Sciences Po, donc voilà.
Non mais ouais, attends, il faut le dire quand même, la manif de jeudi pour ceux qui... alors on va se la péter parce qu'on n'a pas grand chose à vendre en général à Reims, donc là on va quand même faire des caisses. C'est certainement la plus grosse manif en termes de nombre depuis le début du mouvement. Ouais. Merci aux jeunes d'avoir fait péter le score. Et en plus je crois que tout le monde a vraiment surkiffé le fait de pouvoir un petit peu sortir de cette traditionnelle promenade, ouais. De promenade de chiens où on a l'impression vraiment de faire une balade et de rentrer chez nous. Alors malheureusement, on sait qu'il y a eu 4 interpellations et au moins 3 déferrements et passages devant le procureur de la République pour des injures, donc des outrages devant un agent dépositaire de la force publique qui ont entraîné un stage de citoyenneté et une amende. On a également un autre cas qui serait lui déféré pour des violences. Je ne sais pas si l'affaire a été en comparution immédiate ou si elle a été victime de classement. Nous, ce qu'on peut vraiment inviter, c'est que les gens qui ont subi ça ne restent pas tout seuls, qu'ils se manifestent. Vraiment, il est évidemment hors de question qu'ils se démerdent à payer leurs amendes, leurs stages, etc., etc. Faut surtout pas rester isolé dans ce genre de truc, même si c'est pas tous les jours facile. Il peut y avoir de la honte ou il peut y avoir d'envie de passer à autre chose. Donc manifestez-vous auprès des syndicats, pas forcément l'ARE parce que c'est pas les plus bourges, c'est pas les plus riches, mais il y en a des autres. On fera tourner l'information et on collectivisera tout ça, quoi. D'ailleurs, en parlant des autres syndicats, comment ça se passe? Vous avez des liens? Ça fonctionne bien? Est-ce que vous avez des liens un peu plus directs avec d'autres secteurs en lutte, comme les cheminots ou, je sais pas, comment vous fonctionnez dans le mouvement?
Alors, il y a un lien direct avec l'intersyndicale, du coup. qu'on retrouve souvent, on voit souvent que ce soit en réunion, donc qu'entre représentants de chaque syndicat, ou alors directement sur le terrain, très souvent on les rejoint assez tôt à la maison des syndicats pour organiser les actions, que ce soit de la journée ou de la semaine. Donc c'est souvent des blocages de rond-point, ou alors aller directement au contact des cheminots ou des raffineurs.
Et ça se passe plutôt bien ? T'es satisfaite, toi, des échanges que tu as ?
Alors oui, pas spécialement avec tous les syndicats, forcément, il y en a qui sont un peu plus compliqués,
sont pas dans le même délire,
voilà, qui sont pas spécialement dans le même délire, mais sinon, oui, la majeure partie du temps, c'est d'accord. Très cool.
Vous nous parlez un peu d'extrême droite, il y a des problèmes que vous avez eus avec l'extrême droite.
Ah. Qui prend la parole?
Il y a beaucoup de choses à dire.
Tu veux dire en général?
Ah bah, de manière générale, il y a énormément de choses à dire déjà sur le sujet d'extrême droite, notamment à Reims. Mais alors, oui, du coup, ça
commencer par la répression,
le blocus. On va commencer par parler du coup du blocus, peut-être. On arrive sur les interventions de l'extrême droite, justement là-dessus. Donc, le jeudi dernier, il y a eu blocus à Sciences Po qui a été décidé par une assemblée étudiante le lundi même. On avait pas mal de revendications, quelques-unes auprès de l'administration, notamment pour la banalisation seulement des absences, pas des cours, mais seulement des absences, les jours de mobilisation générale, pour permettre aux étudiants de se mobiliser, puisque Sciences Po prétend encourager justement à l'investissement, qu'il soit civique, tout type de mobilisation, associatif, etc.
Attends, que je comprenne bien, la présence au cours, elle est obligatoire d'une part,
ouais.
Et si... vous étiez amené à manquer un cours, un jour de manifestation, même en revenant l'après-midi, c'est comptabilisé comme une absence entre guillemets injustifiée, ça peut pénaliser l'obtention de votre diplôme ?
Exactement, au bout de trois absences injustifiées, pardon, on est défaillant, donc on a droit à deux
et on est défaillant
au bout de trois.
C'est quoi ces guignols ?
Oui, c'est assez surprenant, notamment, c'est assez difficile justement de justifier, hein, c'est vraiment pour des raisons ou médicales ou vraiment raisons impératives d'un point de vue familial, et donc il y a vraiment très peu de raisons de rater un cours. Et alors que vraiment, on nous encourage énormément à se mobiliser. Alors évidemment, il y a pas mal d'associations au sein du campus qui essaient de s'organiser pour pas être empiétés la plupart du temps sur les heures de cours, mais c'est hyper compliqué. Et donc, donc nous, ce qu'on a demandé pour le blocage, c'était donc la banalisation pendant les jours de grève générale. Des absences, puis aussi c'était aussi une manière de faire un pied de nez au gouvernement, de dire regardez, on se mobilise partout, beaucoup de Sciences Po sont beaucoup de campus de Sciences Po sont bloqués, y compris à Reims, plein d'universités, en parallèle, en solidarité avec tous les autres mouvements de blocage et de revendications sur ces jours-là. Et donc ça s'est très bien passé, c'était super sympa, on s'est rejoint entre 5h et 6h du matin, notamment en collaboration avec les Gilets jaunes qui nous ont aidés à monter le blocus. Et donc la journée s'est très très bien passée, on a eu un bon dialogue avec l'administration, on s'est pas fait embêter particulièrement par la police, parce que notamment la directrice était assez sympa, de manière, je pense qu'on peut dire, réglo, franchement, ça a été. Et même si on a eu au début quelques interrogations sur quelques points un peu absurdes quant à la nécessité de garder le campus ouvert pour que les étudiants puissent accéder au point santé, qui est pas particulièrement utilisé à Sciences Po, mais fallait garder l'accès au point santé.
Surtout,
beaucoup, souvent fermé, et ce jour-là, en plus, je crois qu'il n'y avait pas de médecin. Donc, c'était
sachant que le médecin, il n'a que le vendredi.
Mais bon, voilà, donc ça s'est bien passé. Sauf à certains moments, donc au courant de l'après-midi, on avait été mis au courant par des contacts à nous que des militants d'extrême droite souhaitaient venir sur le blocus pour nous déloger. Hein, donc on a vu arriver certaines têtes connues deux étudiants de l'UNI.
Oui.
Dont un de Croix-Rouge, d'ailleurs.
Des militants de l'Action française ?
Et accompagnés, visiblement, de militants de l'Action française.
D'accord.
Qui nous ont enjoint évidemment à cesser le blocus, hein, parce que c'est leur idéologie, tout en nous bassinant de « ah bah fallait pas voter pour Macron », plein de choses comme ça, en disant qu'on était finalement un petit peu les alliés du capital, tout ce genre de trucs sympas, alors que c'est eux qui viennent, qui font jamais rien et qui viennent nous emmerder, t'es contente de faire quelque chose. C'est pour ça que je dis qu'à Reims, il n'y a que l'AER en tant que syndicat et les partis de gauche et les étudiants de sensibilité de gauche qui se mobilisent en vrai. Donc, voilà.
Surtout,
alors qu'après l'extrême droite, ils nous bassinaient, c'est toujours drôle.
Ah,
et alliés du capital, alors qu'on justement bloque contre le capital. Enfin, je veux dire, faut un peu savoir ce qu'ils veulent, quoi, dans l'extrême droite.
Je pense pas qu'un étudiant qui milite à l'Action française soit en capacité intellectuelle de déterminer ce qu'est et le capital et le capitalisme.
Ouais, non, mais c'est ouais, bon, pour eux, oui, non, bon, on peut continuer.
Mais donc ça a pris parce que bon, à la limite, tout le monde a le droit de discuter et de venir invectiver un blocus, mais
le malheureusement, problème n'étant pas la discussion, quoi. Pour le coup.
Malheureusement, ça n'a pas été que cela, quoi.
Non, du coup. Donc, je pense que quand ils ont remarqué que les mots ne suffisaient pas, puisque pour le coup, il n'y avait pas d'argument derrière, ils ont employé la violence et donc une personne s'est retrouvée à l'hôpital. Donc l'un des étudiants, qui d'ailleurs n'est même pas à Sciences Po, il est à la fac.
Oui, il était Croix-Rouge du coup, voilà. En plus.
Donc il était vraiment venu pour aider, quoi. Une plainte a été déposée, mais bon, voilà. Après, s'en est suivi hein, pendant la soirée, le lendemain, des menaces et des ratonnades. L'extrême droite en liberté complète dans les rues, à se demander ce que fait la police finalement.
Ben, en général, elle est d'extrême droite.
Ouais.
Enfin, c'est moi qui le dis, hein, j'assume mes propos. Hein.
D'ailleurs, quand la police est venue pour. Constater l'état de ce qui se passait, la présence de l'extrême droite et de personnes dangereuses sur les lieux du blocage, la police a préféré nous parler du fait qu'on avait aussi voté Macron au second tour.
Ah bon, tout à fait. Oui, elle est revenue sur les revendications, que ce soit les revendications à l'échelle de Sciences Po ou à l'échelle nationale. Quoi.
Quel type de police c'était ? C'était la BAC ou c'était des gens en tenue ?
Alors, non, c'était des gens en tenue. Il y avait la brigade de surveillance policière, donc celle qui est chargée dans les rues. Il y avait des CRS lambda.
D'accord. Et alors malheureusement, encore une fois, ça n'a pas été jusque-là, puis ça s'est pas arrêté là, puisque je sais pas si vous êtes autorisé à en parler, mais il y a des gens qui ont été menacés jusque chez eux, quoi.
Non, ok.
Ce qui veut dire, c'est que ces individus, potentiellement, ils sont dangereux, quoi. Véritablement, quoi.
Ouais, le soir même, hein, il y a eu des ratonnades. Donc, c'est des choses qui se font à Reims, qui se font aussi dans d'autres villes. Hein, mais de manière générale, on les connaît. On sait que l'extrême droite à Reims est assez prolifère. Ouais, ils prolifèrent pas mal. C'est un symbole pour eux, hein, j'imagine. La royauté.
C'est surtout, en général, une grosse bande de balances et d'alcoolos. Qui sont un peu axés
sur la violence, qui ont envie de se taper de temps en temps.
C'est ça, pour avoir connu des militants d'extrême droite qui sont des militants qui avaient la capacité à avoir une vision du monde et une pensée du monde et à la défendre. Là, on a surtout des gens qui ont très envie de se taper parce qu'ils n'ont pas grand-chose à faire dans leur vie et des trucs à raconter le week-end. Ça leur meuble leur misère. Et en plus, en général, quand ils tombent sur des gens qui sont tout à fait capables d'assumer la violence physique, bah, ils ont tendance à repartir en courant parce que c'est souvent le cas. Ou alors, par exemple, aller souiller des stèles de mort comme celle de Pierre Maître qui s'amuse à faire régulièrement. Donc on voit, en général, le niveau de courage que représente ou qui peut être incarné chez les combattants de l'ordre nouveau, quoi. Il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à un étudiant ou une étudiante qui voudrait éventuellement se mobiliser ? Pourquoi c'est important et pourquoi il a intérêt et pourquoi il est concerné aussi par ça ? Et puis, comment faire pour vous rencontrer éventuellement sur la manif de demain ou sur les prochaines manifs ?
Pourquoi se mobiliser ? Parce que déjà il faut être conscient que ça nous concerne tous, la réforme des retraites, que le déni de démocratie ça nous concerne tous aussi, que c'est un moment hyper important en ce moment pour déterminer un petit peu la suite des choses, qu'est-ce qui va se passer, d'un point de vue institutionnel, parce qu'on est quand même dans une crise institutionnelle, c'est terrible tout ce qui se passe, la remise en question, on peut tout remettre en question à partir de ce moment, l'utilisation de la constitution telle qu'elle est faite aujourd'hui.
Ça sera ton sujet de fin d'année à Sciences Po, mais...
Oui, c'était juste pour revenir là-dessus. Et il faut être solidaire, évidemment, aussi avec ceux que ça va concerner très rapidement, hein, la retraite, la précarisation des personnes âgées Et même, ça a des impacts sur tout le marché du travail, c'est terrible. Et même pour la jeunesse, hein, qui va être impactée, notamment avec une potentielle hausse du chômage, etc. Enfin bon, on ne va pas revenir sur tous les arguments pour dire que c'est une réforme qui est complètement injuste, qui n'a aucun fondement réel, puisque le corps dit que c'est de la merde. Et bref, tout ça pour dire qu'un jeune aujourd'hui, il doit se poser la question de son avenir, évidemment. Alors il y a toutes les questions autour du climat, toutes les questions autour de la démocratie, toutes les questions autour des retraites. C'est tout très, très important de se mobiliser. Faut pas avoir peur de l'extrême droite, hein. Alors oui, c'est un peu impressionnant. Je sais que ça a impacté psychologiquement beaucoup de monde à Reims, parce qu'on se rend compte, on en entend parler, on sait que ça existe, les ratonnades, on sait que ça existe, les menaces, les coups, mais on n'est pas forcément confronté au jour le jour, notamment à Sciences Po. Et là, on s'est rendu compte que voilà, c'était très réel, très factuel. Maintenant, il faut pas, évidemment, faut faire attention, mais faut leur montrer qu'ils peuvent pas maîtriser la ville, hein. Elle est à tout le monde, et le débat démocratique sans la violence, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, venez nous rejoindre un peu partout. L'AER sera très ravi. Contactez-nous sur Instagram, contactez-nous partout.
Et les
partout,
autres aussi.
Et d'ailleurs, et les autres, tous les mouvements, tous les mouvements.
Et le NPA,
et les jeunes communistes.
Et les jeunes insoumis.
Non. Bah alors moi du coup ce serait aussi pour parler du comité de mobilisation de Croix-Rouge, fait.
Vas-y, tant que je peux faire la pub
pour ceux qui sont à Croix-Rouge, c'est cmcr-reims sur Insta, et on donne toutes les informations des actions qu'on fait sur place. On en fait des fois d'ailleurs en lien avec l'alternative, enfin c'est déjà arrivé, et on en fait en lien avec avec l'aide de certains gilets jaunes. Des fois on essaye de se lier un maximum, et
ça
puis
cool,
voilà.
Ça.
Et aussi Reims-du-Bas en lutte pour toutes les actions qui se déroulent à Reims, que ce soit mobilisation, manifestation, actions diverses.
Et sinon, n'hésitez pas à juste venir nous voir en tête de cortège pendant la manif. Donc très souvent, il y a des jeunes, vous les voyez circuler un peu, que ce soit ceux qui ont les mégaphones ou ceux qui viennent prendre les contacts. Donc n'hésitez pas, on va vous ajouter à des groupes où toutes les infos sont relayées. Comme ça, vous pouvez continuer votre mobilisation jusqu'au bout.
En tous les cas, pour conclure, les étudiants se bougent à Reims, à Sciences Po et ailleurs également. Donc ça serait vraiment dommage de passer à côté de sa première vraie mobilisation, quoi.
Du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat!
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Alain Gorge, chaque semaine sur Nicolas Guirec à Montpellier, Canassil, à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.